Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. L'hypothèse d'un troisième confinement pour la fin de semaine, nous verrons les indicateurs qui vont déterminer la décision du président, sans doute mercredi. Retour à la fac pour quelques milliers d'étudiants ce matin, rentrée ratée à l'université Bordeaux-Montaigne. Les bénévoles qui œuvrent auprès des plus fragiles demandent à se faire vacciner pour poursuivre leurs actions de terrain. En Europe, les manifestants anti-confinement donnent de la voix ce week-end en Espagne, au Danemark et aux Pays-Bas où des heurts et des pillages se sont produits. Le Vendée Globe, la course autour du monde va s'achever en régate, 5 skippers au coude à coude à 48 heures de l'arrivée au Sable d'Olonne. Invitée d'Europe Midi, la comédienne Ariane Ascaride qui a confié ses peurs et ses colères, son désarroi ou sa révolte à son père disparu dans une série de lettres. Bonjour pas au seuil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'hypothèse est sur la table, elle n'est pas certaine. Emmanuel Macron présidera mercredi un conseil de défense sanitaire avant de décider de prononcer ou non un nouveau confinement généralisé du pays. Les indicateurs épidémiques de ces prochaines heures seront déterminants dans cette décision. Un, notamment, sur lequel les autorités de santé ont les yeux rivés, Anne Le Gall, la propagation du variant.
Oui, selon la première enquête qui a estimé sa circulation, début janvier, nous étions à 1,4% des cas de Covid issus de ce variant anglais. Mais selon le professeur Jean-François Delfrécy, nous serions désormais à un niveau de 7 à 9% dans certaines régions, comme la région parisienne. Et ces variants britanniques, mais aussi sud-africains, brésiliens, changent totalement la donne, affirme le président du conseil scientifique. Il recrée presque l'équivalent d'une deuxième pandémie car il se propage beaucoup plus vite et pour l'instant à bas bruit en France. Les chercheurs britanniques parlent d'un nombre de variants multiplié par 6 ou 8 chaque mois et c'est pour cela que Santé publique France espère lancer une nouvelle enquête flash cette semaine. Comme pour la première, il s'agira de repérer les cas suspects sur 2 jours grâce à certains tests PCR qui donnent des réactions atypiques caractéristiques de la présence du variant britannique et de confirmer mais ces résultats par un séquençage génétique. Et la nouveauté cette fois-ci, c'est que les laboratoires devraient aussi pouvoir utiliser des tests PCR qui donnent une alerte sur les variants sud-africains.
Merci Anne Le Gall. Ce matin, quelques milliers d'étudiants ont repris le chemin de leur fac, comme prévu, pour des demi-groupes de travaux dirigés en première année. Mais à l'université de Bordeaux-Montaigne, où vous vous trouvez Stéphane Place, c'est le bazar.
Oui, réunis ici sur le parvis de Bordeaux-Montaigne, environ 200 étudiants qui disent leur ras-le-bol. Hugo et Kathleen sont inscrits en première année de russe. Ils n'en peuvent plus des cours à distance, mais ne voient pas non plus les fameux demi-groupes pour les L1 se mettre concrètement en place.
Non, j'ai bien l'impression que non, ça n'existe pas en fait.
Vous n'avez pas eu l'information qui dit que vous revenez mardi, lundi?
Non. Non, on n'a rien eu du tout. Alors, enfin, c'est pas normal parce que je pense que le Premier ministre avait bien dit que c'était prévu pour lundi. La personne nous prévient.
Ah, ils ont dit revenez à la fac, il y aura un jour par semaine, etc. Au final, du coup, là, c'est une rentrée fantôme. Après, les profs font de leur mieux, mais bon, on n'est que en TD en groupe sur Zoom, mais c'est que du virtuel.
Le président de l'université Bordeaux-Montaigne se justifie ce matin. Lionel Larrey, lui, dénonce les consignes floues données par l'exécutif qui ne permettent pas d'organiser les emplois du temps.
Alors, les consignes sont contradictoires. Les L1 peuvent revenir à 50%, les étudiants fragiles peuvent revenir par groupe de 10, mais la circulaire reçue vendredi après les déclarations du président Macron nous indique qu'il faut faire revenir tous les étudiants à 20%. C'est un casse-tête, on n'est pas loin du théâtre de l'absurde et les étudiants sont pas contents, je le comprends, mais les personnels sont aussi très mécontents.
Le brouillard, la confusion renforcée désormais, nous disent les étudiants et les enseignants, par le spectre d'un troisième confinement dans les jours à venir.
Stéphane Place à Bordeaux pour Europe 1. Côté vaccin, la France a passé la barre du million de personnes ayant reçu une première injection, soignants et plus de 75 ans pour l'essentiel. Mais les bénévoles qui aident les plus fragiles voudraient aussi accéder en priorité à la vaccination pour pouvoir poursuivre leurs actions de terrain. Ce sont souvent des retraités. Et d'après une étude publiée ce matin, près de 4 bénévoles sur 10 sont à l'arrêt depuis des mois à cause des risques de Covid. Élise Dangean a pu le mesurer à la Banque alimentaire de Paris-Île-de-France, reportage.
Il y a des pâtes, il y a du riz, il y a des conserves, il y a des produits bébés.
Nicole ne manque pas de produits pour son ravitaillement de la semaine, mais elle manque de bras pour son association. Depuis le début de l'année, elle a 25 nouvelles familles à aider et toujours toujours très peu de bénévoles.
C'est très serré. Je tire entre guillemets toujours sur les deux ou trois mêmes, mais c'est dur pour eux. Et enfin, moi, j'y suis tout le temps. Je fais les courses, je fais le ménage, je fais tout. Mais à un moment, c'est épuisant.
Dans les banques alimentaires, 3 bénévoles sur 5 ont plus de 65 ans. Un public à risque qui s'est mis en retrait. Alors vivement le vaccin, dit Stéphane, responsable de l'entrepôt d'Arcueil.
Par rapport au tout début de la pandémie, j'ai perdu quasiment la totalité de mes bénévoles. Donc oui, si eux pouvaient être vaccinés, qu'ils puissent revenir, on sent vraiment une volonté, une envie de revenir.
Alors heureusement, en attendant le retour des bénévoles historiques, l'association a pu compter sur de nouvelles recrues, étudiants, nouveaux chômeurs. Résultat, Pierre, 88 ans, est le doyen de l'Assemblée et il n'est pas inquiet.
Je fais attention et je vais me faire vacciner là.
Pierre, lui, a rendez-vous dans une semaine et demie, mais pour les autres, il va falloir encore faire preuve de patience.
Reportage d'Élise Dangean. Pendant que la France réfléchit à un troisième confinement, en Europe, les anti-confinements donnent de la voix. Plusieurs manifestations ce week-end en Espagne pour dénoncer la tromperie d'un virus qui, selon plusieurs milliers de manifestants à Madrid, n'existe pas. Au Danemark, contre la dictature du semi-confinement. Et puis hier, aux Pays-Bas, où des affrontements ont éclaté dans plusieurs villes du pays, Isabelle Horry.
Oui, quelques milliers de protestataires seulement, mais des incidents musclés, des jets de pierres, des commerces vandalisés, des vélos et des voitures incendiées, un centre de dépistage du Covid aussi. Il a même fallu utiliser les canons à eau pour disperser la foule sur la fameuse esplanade des musées à Amsterdam. La police a arrêté plusieurs dizaines de personnes. Le Premier ministre Mark Rutte était visiblement fâché ce matin.
On se demande vraiment, mais qu'est-ce qui a pris à ces gens? Ce n'est pas une manifestation, c'est de la violence criminelle. Nous ne prenons pas toutes ces mesures par plaisir, c'est pour lutter contre le virus. C'est le virus qui en ce moment réduit notre liberté.
Le premier couvre-feu, en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, est entré en vigueur aux Pays-Bas samedi soir. Il s'applique de 21h à 4h du matin. L'extrême droite a pris position contre cette mesure au nom de la défense de la liberté. Depuis mars, les Pays-Bas n'avaient jamais imposé de vrai confinement à leur population. Dans ce pays très attaché à la liberté individuelle, un peu comme en Suède, il n'y avait que des recommandations. Mais la sévérité de la deuxième vague et la crainte face aux nouveaux variants ont là aussi changé la donne.
Isabelle Horry, la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Merci.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, la politique et le sprint final du Vendée Globe à la voile.
Europe Midi, Patrick Cohen.
L'inceste et les violences sexuelles sur les enfants, les associations dédiées viennent de rencontrer le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, pour faire valoir leur position dans le débat sur la criminalisation des relations sexuelles avec les mineurs dans la perspective d'une nouvelle loi. Marion Dubreuil vient de joindre la présidente de l'association Enfants, l'Enfant Bleu, Isabelle Debray.
Une très grande qualité d'écoute. Il prenait des notes, il vraiment écoutait toutes nos propositions. Nous avons demandé au garde des Sceaux de revoir l'âge du consentement. Nous partons du principe à l'Enfant Bleu que un enfant de moins de 15 ans doit être présumé non consentant. En ce qui concerne la prescription, lorsque j'ai commencé à militer il y a 30 ans au sein de l'association L'Enfant Bleu, la prescription était de 10 ans. Elle est passée à 20, elle est aujourd'hui à 30, le Sénat a voté à 40. Nous allons voir si nous pouvons peut-être même jusqu'à l'imprescriptibilité. Nous demandons qu'il y ait dans notre code pénal une notion de crime contre l'enfance.
Isabelle Debray de l'association L'Enfant Bleu avec Marion Dubreuil. La politique ce matin, ce sont les vœux à la presse de Marine Le Pen, la chef du Rassemblement National, qui se réjouit des derniers sondages présidentiels qui laissent présager un nouveau duel entre elle et Emmanuel Macron.
Les Français ont bien compris que les deux grandes options politiques, c'est le choix entre le mondialisme et la nation. Et qu'il faudra probablement deux présidentielles pour trancher ce très grand choix politique. C'est un choix cohérent que font les Français en mettant Emmanuel Macron, qui est le champion du mondialisme, et moi, qui suis en quelque sorte la championne de la défense de la nation, face à face. Ça fait 4 ans que chaque sondage donne ce même second tour. Et par conséquent, je dis à tous ceux qui ne souhaitent pas qu'Emmanuel Macron ait la moindre chance de gagner à nouveau les élections présidentielles, de venir travailler avec moi. Voilà. Qu'ils ont leur place à mes côtés. Que nous devons travailler ensemble à la mise en œuvre de ce rassemblement national. C'est maintenant qu'il faut se mettre à y travailler.
Marine Le Pen qui n'est pas sur le Vendée Globe, contrairement aux apparences, mais qui était au siège de son parti. C'est la magie des visioconférences, propos recueillis par Aurélie Herbemont. Le Vendée Globe, justement, nous
quelle
y venons.
Transition.
À 48 heures de l'arrivée au Sable d'Olonne, Cyril de la Morinerie, 5 skippers peuvent encore l'emporter. C'est assez extraordinaire après un tour du monde complet. Suspense.
Oui, après 77 jours de course, Charlie Dalin et Louis Burton sont au coude à coude. Le skipper de 36 ans a repris l'avantage dans cette lutte acharnée, mais son avance est infime et l'écart d'ailleurs se réduit au dernier pointage de midi. Il est d'une vingtaine de kilomètres. La moindre erreur de trajectoire peut se révéler fatale. Pour gagner, il faudra aussi une part de chance, comme le reconnaissait ce matin Charlie Dalin, interrogé par Mathieu Belliard.
Météo climat favorable, c'est le choix des bonnes voiles, un peu de réussite aussi. Ce sera une somme de plein de petites choses pour y arriver.
Dans ce groupe de tête, il y en a deux qu'il faut surveiller particulièrement. C'est l'Allemand Boris Herrmann, bien sûr, et puis le Rochelais Yannick Bestaven. Yannick Bestaven qui, souvenez-vous, avait passé le premier le Cap Horn avant d'être ralenti. Lui aussi est lancé dans un incroyable finish. Le skipper de Maître Coq sur Europe 1.
Ça rajoute à l'excitation et aussi au stress de ces derniers jours de course. On est avec des bateaux qui sont quand même fatigués après un tour du monde. Nous, physiquement, ça commence à être dur aussi parce que c'est des machines qui sont... nerveuse et difficile à mener en course, il me tarde de passer la ligne. Ouais.
Mais pour avoir participé au sauvetage de Kevin Escoffier, Yannick Bestaven possède une bonification de 10h15, tout comme l'Allemand Boris Herrmann, actuellement 3e, qui n'a jamais mené la course, mais qui avec ses 6 heures de bonification peut être en mesure d'être désigné vainqueur sans avoir franchi la ligne le premier. En tout cas, selon les dernières estimations du PC Course, les 3 premiers sont attendus au Sable d'Olonne mercredi.
Ça va être palpitant à suivre et on le suivra avec vous,
avec Corinne Boulou, qui est en route et qui va arriver dans quelques heures au pointage de son GPS au Sable d'Olonne.
Voilà, mais elle fait la course avec personne, hein, qu'elle arrive tranquillement sur place au Sable d'Olonne. On l'embrasse, Corinne Boudou. Le temps, Anissa Dadi, de la neige à l'est cet après-midi.
Oui, de l'Alsace jusqu'à la Bourgogne et même jusqu'à l'Aube, hein, par exemple à 3 cet après-midi, nous aurons de la neige. Le ciel est très nuageux sur toutes ces régions avec des flocons tout l'après-midi. 10 cm attendus à partir de 500 mètres d'altitude et 3 à 5 cm en ville. Alors sur les Pyrénées, là aussi nous avons de la neige avec un ciel très couvert. La neige tombe à plus haute altitude à partir de 1000 mètres. Au bord de la Méditerranée et en Corse, c'est le vent qui souffle fort, très fort sur l'île de Beauté, hein, plus de 100 km sur les caps. Il neige aussi des 800 mètres en Corse, partout ailleurs, des Hauts-de-France au Pays de la Loire, en passant par la région parisienne, la Normandie, la Bretagne. Les éclaircies sont belles cet après-midi. Des Ardennes au Land, en passant par le Massif central. Là aussi, c'est le soleil qui domine. Les températures, elles sont fraîches. 2 à Belfort, 4 à Saint-Étienne, 6 pour Paris et Lille, 11 à Marseille et 13 la maximale pour Nice.
Merci Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Ariane Ascaride est notre invitée dans un instant. Elle a confié ses peurs, ses colères, ses nostalgies d'enfance à son père disparu dans une série de lettres qui paraissent au Seuil. Bonjour, pas à tout de suite.